Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, pour quelques numéros spéciaux hors série, votre podcast favori se renomme Le Comptoir du Festival. Et oui, on enregistre en ce moment même depuis la terrasse des journalistes du Palais des Festivals à Cannes, avec les collègues et néanmoins amis, Claire et Aubry. Bonjour à tous les deux.
Coucou.
Coucou.
Et oui, Transistor est à Cannes pour vous faire vivre, en léger différé, un événement mondial couvert avec la précision et le professionnalisme que l'on nous connaît et dont, chers auditeuristes, vous êtes familiers et familières. On est aujourd'hui le dimanche 17 mai, voilà 4 jours que votre équipe est sur le coup. Aubry et moi, on est arrivés le jeudi 14 et Claire le vendredi 15. Enfin, nous avons commencé nos projections ces jours-ci. Et avant de découvrir le film de Na Hong-jin ce soir en projection presse, c'est l'heure d'un point bilan. Après 16 films vus à nous trois, des nuits courtes et un gala manqué de peu, comment allez-vous? Enfin, je vous demande ça alors qu'on vient de croiser Cate Blanchett comme ça, l'air de rien, dans un des lobbies du palais. Mais Aubry, comment tu vas?
Bah écoute, en vrai, ça pète le feu. On fatigue un petit peu, c'est-à-dire qu'on a du mal à se lever le matin. Mais il s'avère que, comme tu as dit, on a réussi à voir pas mal de films. En fait, le seul truc qui manque pour l'instant, c'est un vrai gros choc. En sachant que, pour ce moment, ce qui se rapproche le plus de vrai gros choc, on l'a eu, slash on les a eu dans la section Cannes Classics contre toute attente, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans un autre épisode. Donc voilà, ça va, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud, on mange bien et on se... Non, j'allais dire on se prélasse sur la plage, mais tu couperas ça au montage. mais non, voilà, très très content d'être de retour à Cannes pour une deuxième année consécutive.
Et bah écoute, moi ça va super, je suis ravie d'être là pour la première fois. Et on profite des films. Je suis entièrement d'accord avec Aubry. Ça manque encore d'un bon gros coup de cœur qu'on suit du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, les films sont tous longs et on le ressent un petit peu, voire beaucoup, ça dépend, pendant les séances. Donc voilà, on attend de voir pour la suite.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai hâte, on a même pas fait la moitié du festival, encore plein de films en compétition à venir qui vont peut-être, et on l'espère, nous surprendre. On verra en tout cas dans le courant de cette seconde semaine comment ça évoluera. Pour cette couverture étendue, mais pas exhaustive, du Festival de Cannes, on vous propose de nous suivre dans une suite de discussions, de débats, d'accords et peut-être même d'engueulades à la faveur de thèmes partagés ou qu'on en identifiera comme partagés entre les films d'une sélection qui fait ce qu'elle peut, hein, on vient de le dire, mais qui, en tout cas, on peut le dire aussi, est programmée de manière assez cohérente et grâce à laquelle peut-être des réseaux de sens se tissent d'un film à l'autre, quitte à ne pas suivre les projections dans l'ordre chronologique dans lesquels on les a vus. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. C'est un thème récurrent à Cannes, que ce soit sur le mode de la réconciliation dans les larmes, ou bien sur le mode du fameux mot de Gide, famille, je vous hais, et on le retrouvera ailleurs dans nos commentaires cette année. Mais on a sélectionné, pour cette première émission, cette émission à mi-festival, on a sélectionné 3 films de la sélection officielle qui reposent sur cette idée de famille. Paper Tiger, de James Gray, en compétition, pour la Palme, Full Fill, de Quentin Dupieux, programmé hors compétition en séance de minuit, et Ship in the Box, également, en compétition, réalisé par Kore-eda Hirokazu, un habitué du festival. 3 films qui scrutent respectivement une relation entre frères, une relation entre un père et sa fille, et une relation entre des parents et leur enfant robotique. Ce qui est intéressant dans ces 3 films, qui justifie aussi peut-être leur mise en lien, c'est que chacun convoque le cinéma de genre, à un moment ou à un autre, que ce soit pour son principe narratif ou juste un... ou juste pour faire joli, pour évoquer ses relations. James Gray convoque ainsi le film de mafieux dans les années 80, là où Quentin Dupieux intercale dans Full Fill des extraits d'un faux film d'horreur des années 50, et Ship in the Box donne lui plutôt dans une franche anticipation, voire dans l'horrifique, dans sa deuxième moitié. évitant une pure peinture naturaliste, ces trois réalisateurs logent, dans leur chronique, logent leur chronique familiale dans un univers plus ou moins contraignant en termes de forme ou d'histoire, des genres très codés que la famille vient, que les dynamiques familiales même viennent faire dérailler. Voilà déjà quelques pistes à partir desquelles partir, mais sans plus attendre, penchons-nous sur Paper Tiger. Ce nouveau film de James Gray, qui retourne à un régime franchement fictionnel après le semi-autobiographique Armageddon Time, nous propulse 40 ans en arrière dans le New York sale et pollué de 1986. La famille Pearl, Irwin, son épouse Esther et leurs deux fils adolescents, est tout juste rentrée de vacances. Gary, le frère d'Irwin, débarque ce soir-là pour lui proposer à Irwin une affaire en or. Les pouvoirs publics ont entrepris de dépolluer un canal non loin, et Gary estime que l'association de son esprit capitaliste et entrepreneur avec la formation d'ingénieur d'Irwin pourrait leur permettre de fonder une société rentable et légale pour accompagner cette dépollution. Mais la nécessaire implication dans le projet de la diaspora russe du quartier, dont on peut dire qu'elle est mafieuse, ou en tout cas qu'elle est bien moins portée vers l'utilité publique que le sont les frères Pearl, cette implication de la mafia a vite fait de tout faire s'effondrer dans une spirale tragique annoncée par la citation d'Eschyle qui ouvre le film, qui estime en somme que le sage devrait connaître ses limites. Ajoutons à ce drame restreint et filmé avec un budget extrêmement limité, film d'ailleurs très indépendant et produit sans aucune des majors traditionnelles, que le personnage d'Esther, la femme d'Irwin, donc, si elle n'est pas impliquée dans l'affaire russe, manifeste quelques signes de burn-out, voire en fait quelque chose de plus grave. Tourné en pellicule, ce film d'un peu moins de 2 heures réunit Miles Taylor dans le rôle d'Irwin, Adam Driver dans celui de Gary et Scarlett Johansson dans celui d'Esther. Paper Tiger fonctionne dans le cadre restreint et domestique de la famille d'Irwin d'abord, puis dans quelques rues de Brighton Beach, le quartier russe de New York, ainsi que dans des écharges sauvages sur les quais de ce fameux canal. Autant de décors qui fonctionnent comme lieu d'une tragédie annoncée, fatale, donc, remarquablement bien menée en termes de rythme, de jeu et d'écriture, où l'intrigue mafieuse fonctionne finalement d'abord comme un prétexte à l'exploration de relations fraternelles, parfois dysfonctionnelles, mais marquées par une profonde sincérité. Et au fond, c'est ça sur quoi je vais terminer, qu'après... vous pourrez peut-être réagir ou non, c'est que le film formule l'hypothèse de la sincérité. Voilà, un des points qui m'a marqué dans Paper Tiger, c'est que les personnages ne mentent pas, jamais ou très peu, ou pas pour très longtemps en tout cas. On ne suit pas des salauds. Gary, derrière son apparence de requin capitaliste, c'est un ancien flic qui a quitté la police quand il a découvert l'ampleur de la corruption qui s'y jouait. Il dit continuellement la vérité, de même que son frère, et de même aussi que les Russes, d'ailleurs, qui ne masquent pas leurs intentions, quand même dans leur cas la vérité ne se met pas au service de la morale. Une seule ment et c'est par omission, on pourra d'ailleurs reparler de la trajectoire de ce personnage qui me convainc pas trop, c'est Esther. Comme dans une tragédie donc, les personnages sont le jouet de passion qui les dépasse largement, en l'occurrence la cupidité prédatrice de la mafia, qui en devient d'ailleurs un peu trop une allégorie. Et l'intrigue sur la dépollution du canal sert donc le dilemme, qui du reste est bien ce qui intéresse James Gray comme il l'a dit en conférence de presse, sert donc le dilemme intime d'hommes qui doivent voir en eux-mêmes jusqu'où l'argent doit être leur valeur primordiale, alors que le contexte de l'effondrement de l'URSS et des dernières dictatures socialistes ou communistes, et bien dans ce contexte-là, l'économie de marché américaine ne connaît pour la première fois plus aucune alternative dans le monde. Ce film, on l'a découvert ensemble hier dans la salle Debussy du Palais des Festivals, après une longue journée plus ou moins réjouissante en termes de découverte en compétition ou ailleurs. on en reparlera. À titre personnel, et peut-être du fait de mon historique des films vus plus tôt, c'était le quatrième, j'ai donc été très enthousiasmé par le film, auquel je reconnais des défauts qu'on pourra évoquer, mais qui a su me convaincre plus d'une fois, me faire rire, me marquer profondément par certaines séquences, ce qui a été rare en fait dans ce festival jusqu'à présent. Peut-être simplement il manque-t-il une certaine émotion que toi, Aubry, tu as rencontré ?
Complètement. Moi, j'ai été très, très, très emballé par le James Gray. Je pense que, pour l'instant, à ce premier mi-temps du festival, pour moi, c'est le film qui m'a le plus happé dans la compétition, pas loin devant un autre dont on reparlera. Et en attendant, bien évidemment, Na Hong Jin ce soir. Comme toi, je pense qu'il n'est pas sans défaut. Enfin, je lui vois les défauts. Mais en fait, déjà juste enfin du genre en compétition, Dieu merci, ça fait du bien et ça constitue à la fois, je trouve, toutes les forces et toutes les faiblesses du film entre en gros, enfin disons plus dans le fait qu'il s'assume comme pur film de gangster, et donc ça s'accompagne de tout un tas d'inventions formelles assez géniales et en même temps d'un texte cliché assez balourd, on va pas se mentir. Mais voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le film et pareil, on pourra en reparler. Mais disons qu'en fait, j'ai assez mis de côté le scénario du film qui, pour moi, n'est pas tellement sa force, encore qu'il a aussi ses intérêts. Mais je trouve que c'est beaucoup plus un film plastique que narratif. Et en fait, disons que pour moi, ce qu'on pourrait penser perdre en premier abord dans cet aspect narratif, en fait on le retrouve relocalisé dans les expérimentations plastiques de James Gray. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film-là qui fait du bien dans un début de compétition un peu compliqué.
Alors moi de mon côté, je suis beaucoup plus nuancée que vous deux. J'ai beaucoup aimé le film, enfin j'ai passé un bon moment. En revanche, je suis pas sûre d'avoir été entièrement convaincue. Je l'ai trouvé en fait un peu banal, si je peux me permettre, voire un peu vieillot. Alors oui, ça se passe en 86. Est-ce qu'on a besoin après d'avoir des choses déjà vues? J'en suis pas sûre. Je sais pas si c'est de ce genre de choses dont vous allez parler quand vous parlez des défauts que vous voyez, mais c'est vrai que moi je me suis un peu ennuyée. Enfin, en fait, je me suis pas vraiment ennuyée parce que c'est beau et il se passe plein de choses à l'écran. En revanche, on sait où est-ce que ça va, on sait ce qui va se passer. Le duo est super, mais on les connaît déjà. Enfin, je veux dire, les acteurs, je les apprécie beaucoup, mais enfin voilà. Et voilà, en fait. Enfin, en fait, on reste un peu. Enfin, en tout cas, je suis restée un peu sur ma faim. J'aurais aimé que ça ait ce cran un peu supplémentaire, disons, pour passer. Enfin, je sais pas, je dirais d'un 16 à un bon 18, vous voyez. Enfin, ouais. Il manque un peu ce truc. Et tout de même, c'était, faut quand même le préciser, je pense, le premier film américain. Mais dans tous les cas, c'était le premier qu'on voyait en anglais, enfin vraiment américain de A à Z. Et c'était aussi, en tout cas pour moi, un des premiers où il y avait autant d'hommes à l'écran. Enfin du moins, où dans lequel les femmes étaient aussi peu présentes. Ce qui est, bon, dans l'absolu, pourquoi pas. Après, là, j'ai un petit doute quant au personnage de Scarlett Johansson. On en reparlera, je pense.
Merci beaucoup. Vous avez dit des trucs hyper intéressants dans tous les deux et qui vont me... Comment dire ? Je vais revenir d'un coup sur deux de vos remarques. Claire, tu parlais du côté déjà vu du film. Moi, c'est pas ce qui me gêne particulièrement. Plus exactement, ça a pu me gêner en sortant du film sur les atteints... Je ne sais pas à quel point on entend les rires autour de nous, mais c'est le risque de l'enregistrement en extérieur. Sur la question du déjà-vu, effectivement, sur le traitement des personnages de méchants, par exemple, je trouve qu'il est très, 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 très faible et qu'il n'y a aucun effort qui est fait sur la cohérence, même juste la disparition du contact qu'ils avaient, les deux frères Pearl, pour d'un coup se retrouver face à un méchant qui leur dit « Ah, les conditions ont changé, etc. etc. » Donc là, je suis plutôt d'accord avec toi. Là où, en revanche, je rejoindrai Aubry, c'est que la... Comment tu as une belle expression ? Film plastique, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, la clé qui est donnée au début de la citation d'une tragédie grecque, je le justifie un petit peu, comment dire, cette absence de nouveauté. C'est-à-dire que, de même que les tragédies grecques viennent caler dans une forme et que on sait très bien comment ça va se terminer et qu'on sait très bien, on connaît à peu près la trajectoire avant même de l'avoir vu, avant même de l'avoir lu et sans même peut-être connaître le mythe derrière. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le tragédien va changer ou va s'adapter dans ce cadre contraignant. Et là, je trouve qu'effectivement, plastiquement, James Gray, il arrive à proposer quelque chose de très fort dans des formes, moi, qui m'ont marqué et qui restent là. C'est-à-dire que ce soit la tache de pétrole renversée dans le canal qui, avec la pellicule, donne une espèce de flou de nuit ou même de jour. Hein, quand il visite de jour, Miles Taylor est assez fort, voilà. Parce qu'il y a le côté étincelant du pétrole qui se retrouve sur l'eau, qui se retrouve lui-même sur la pellicule, enfin qui est beau, et une scène. Aubry, tu parlais de Home Invasion en sortant du film, c'est-à-dire donc un moment où les Russes, pour intimider Irvine, vont chez lui, déplacent des meubles et prennent en photo sa femme, lui-même et ses enfants avec un Polaroid qu'il laisse là, histoire de juste le menacer. Là, il y a vraiment une tension réelle, quasi horrifique en fait, dans la mesure où les cambrioleurs sont réduits à une espèce d'ombre, à une silhouette assez angoissante, à qui il est informe, à qui il s'exprime. Et qui manifeste en fait cette espèce de présence de force en fait, de force surnaturelle contre lesquelles ces personnages se battent et contre lesquels ils sont assez, enfin ils ont perdu d'avance. Après, le problème, c'est que je retrouve pas ça de façon continue dans le film, et je trouve que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il aimerait dire justement des forces du capitalisme, des forces de la violence qu'il mobilise.
Je suis d'accord sur pas mal de points, mais en vrai, j'aimerais apporter quelques trucs dans le complément. Sur la question du genre, du côté vu et revu, des motifs repris, etc., je trouve qu'en fait, c'est une position intéressante, parce qu'en fait, c'est un film anachronique, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans les années 80, mais pas celles qui sont remises à la mode, on va dire, ces dernières années, c'est vraiment les années 80, enfin... Elles ont presque un côté 70s, en fait. Il y a ça, le genre du film de gangster, c'est un genre qui est pas mort, mais où, pour le coup, effectivement, on a l'impression que tout a été vu et revu. Et effectivement, c'est une histoire assez balisée qu'on connaît bien. Mais du coup, pour moi, il y a quelque chose d'assez anachronique à poser ça là. Et sur la deuxième partie, sur le côté plutôt plastique, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que, justement ce que le film choisit de ne pas raconter par sa narration, par son histoire, qui de toute façon, on l'a dit, est déjà vu et revu, il le raconte visuellement à l'image par une narration par l'espace, en fait. C'est-à-dire que c'est un film où tout est en jeu de territoire. C'est d'abord un territoire à infiltrer, celui des mafieux pour gagner de l'argent. C'est un territoire à assainir, on l'a dit, ce canal pollué. C'est un territoire qu'on outrepasse, le domicile qui est violé, un territoire qui est contaminé par cette présence abstraite, c'est-à-dire qu'on est tout le temps menacé dans notre territoire. Et c'est enfin un territoire qu'on doit fuir. Et ces enjeux de territoire et d'espace, ils sont constamment révélés par la lumière, par la gestion de la lumière. La photographie est somptueuse dans le film. Et la séquence la plus symbolique de ça, on l'a dit, enfin la plus marquante à ce titre-là, pardon, c'est effectivement cette séquence de Home Invasion de nuit, où littéralement, en fait, la lumière dessine sur les murs de la maison des formes abstraites. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit même pas la silhouette des Russes. Elle est tapie juste dans une ombre qui est déjà là, plaquée. Et en fait, ça participe de tout un mouvement, on va dire, d'abstraction de la narration, qui est de la faire passer dans des formes comme, à la toute fin du film, il y a une séquence qui se passe dans un champ de maïs. Et ben en fait, il y a toute une forme de signe qui passe dans ces épis de maïs, ces feuilles de maïs. Et pour terminer là-dessus, je dirais qu'en gros, tout ce qui se joue dans le film narrativement se rejoue formellement dans ces questions de lumière et d'espace. Parce qu'en fait, les signes qui devraient être connus par les personnages se retrouvent constamment pervertis. C'est-à-dire qu'on l'a dit, ça paraît anodin ce côté déplacer les meubles et prendre en photo les membres de la famille. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement déplacer l'agencement de l'espace domestique, qui est l'espace connu par excellence. Donc ça fait que tout d'un coup, les signes qui essentiellement en fait, devraient être reconnus par ces gens-là ne le sont plus. Et en fait, tout ça, ça contamine l'ensemble du film, le canal qui lui-même en fait est pollué, les environnements qui ne sont plus maîtrisés par les personnages, et je trouve qu'en fait cette perversion formelle visuelle des signes, elle est assez passionnante, et justement, et c'est ça en fait le neuf entre guillemets du film, c'est de passer par là plutôt que par une narration dont il sait qu'elle va être déjà convenue.
En fait, je suis tout à fait d'accord, enfin, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, mais là où moi ça m'a perdu, c'est que il se concentre donc sur ce duo de frères, mais il le fait pas entièrement, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il passe pas ce pas de se dire ok, c'est les deux frères qui m'intéressent, on se concentre là-dessus, et il y a en plus la mafia russe, et du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi il se concentre, en fait pourquoi ça se dévie un tout petit peu plus vers la famille au lieu que ça soit un peu plus concentré sur cette relation entre les deux frères et la mafia, et comment la mafia vient déstabiliser ce duo qui avait un certain équilibre entre ces deux acteurs qui sont top. Et c'est là aussi que je reviens sur mon histoire de personnage féminin, qui est en fait très frustrant parce qu'elle est super. Son personnage est super, et en plus il est développé, donc c'est chouette. Mais pourquoi elle est là en fait ? Enfin,
elle est sous-exploitée pour le coup.
Elle est, ouais, on comprend pas trop. Il développe un peu à un moment donné, enfin je veux pas spoiler du coup, mais ça développe un peu son histoire, et en réalité c'est vraiment une espèce de une ligne parallèle qui sous-tend un peu, qui sert par moment, mais c'est des espèces de justifications un peu à deux balles. Enfin, en fait, je regrette juste qu'il n'ait pas pris, disons, un truc un peu plus franc, et qu'il soit vraiment allé là-dedans, et que du coup, il y a eu vraiment une prise complètement de... Enfin, un choix vraiment, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a manqué.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Claire. Je te rejoins pour le coup là-dessus. Je trouve qu'en fait, les trois personnages principaux... Irvine, Gary et Esther évoluent sur trois plans différents. les trois. Et ils sont dans trois histoires différentes qui, je trouve, se rejoignent mal. Et je crois que c'est là, en fait, en t'écoutant, j'ai identifié le problème que j'avais avec le film qui fait que je pouvais pas rejoindre intégralement Aubry dans son enthousiasme, quand bien même, à nouveau, j'ai passé un super moment hier soir. C'est que... C'est-à-dire, c'est presque trois histoires séparées. D'un côté, l'histoire d'Esther médicale qui pourrait être ôtée en fait complètement du film, et bon, ça aurait pas été grave. Parce que, bah, je trouve, bah, tu pourras y revenir, mais je trouve que Esther, cette histoire-là apporte éventuellement de l'intensité au lien que Irvine doit avoir avec ses fils, leurs enfants à Esther et lui, mais c'est à peu près tout. Je trouve qu'ensuite, Irvine, et ça c'est un peu le jeu de son personnage qui est très naïf, qui n'est pas du tout aussi habitué aux combines légales, mais combines quand même, de Gary, donc est dans un autre, attend autre chose. Et puis après, il y a donc ce personnage de Gary, qui est joué par Adam Driver, que moi j'ai trouvé vraiment formidable et que je trouve être la meilleure chose du film, en fait, qui est dans des intentions très différentes, des intentions de jeu très différentes, des intentions du personnage très différentes vis-à-vis du marché, et qui a cette espèce de... qui porte en fait une sorte de masque tragique dès le début. Je reviens sur cette idée-là parce que elle m'a marqué. Qui a une intégrité sans faille, à qui le réalisateur veut justement donner une consistance dans un monde. C'est ce que il disait en conférence de presse ce matin, dans un monde qui est en train de se déliter en 86, où l'économie de marché gagne tout à fait et où en gros il y a ce dilemme, c'est est-ce qu'on veut tout réduire à une seule dimension transactionnelle, y compris la famille, ou non, et qui n'est pas si anachronique que ça en termes de contexte Aubry, parce que pour le coup, lui, il voit complètement que 2026 est le fruit de ces interrogations-là, et pas dans le meilleur sens du terme. Et bref, donc, moi, j'ai été fasciné par la rigueur totale du personnage de Gary, qui est à la fois extrêmement charismatique, qui fait des vannes, qui en même temps peut être capable d'une immense violence. Moi, je trouve que la scène où il va intimider les gens qui ont intimidé son frère dans une hot-doggerie de Brighton Beach est très très forte et m'a rappelé le jeu d'un Kitano, par exemple, dans les films des années 90 que Takeshi Kitano, donc réalisateur japonais qui a beaucoup tourné de films de Yakuza, faisait donc dans les années 90, et son personnage est très très kitanien, c'est-à-dire qu'on a Violent Cop, il a pris son il lui ressemble tout à fait en fait dans la dernière partie du film, il a pris son costume, sa coiffure et cette espèce d'anéantissement prévisible dès le début, cette espèce de solitude absolue du personnage dans un monde capitaliste, ou dans un monde violent, ou dans un monde corrompu, eh bien c'est une violence, c'est une intégrité kitanienne d'une certaine manière. Et cette séquence fabuleuse de tension dans les épis de maïs à la fin, elle fait signe aussi vers Jugatsu, qui est un autre film de Kitano de l'époque. Elle sublime de manière très très puissante la solitude du personnage en l'enfermant dans un cadre, dans un décor, dans une matière naturelle où il a vite fait de disparaître.
Je suis d'accord, moi c'est marrant parce qu'en fait pendant tout le film j'ai pas du tout pensé à Kitano, mais parce que j'avais moins les références je pense. En revanche je trouve qu'en fait dans le jeu Adam Driver fait littéralement du Robert De Niro, dans le sens où en fait j'ai trouvé qu'il avait exactement les mêmes mimiques de grimaces, de gestes, même en fait d'intonation de voix que De Niro version mafieux, typiquement Scorsese années 80, etc. Voilà, et en fait, enfin moi je trouve ça assez flagrant, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, les personnages joués par De Niro, en fait, sont une espèce d'ombre qui prédécède là ce personnage d'Adam Driver. Justement, en gros, sur tout ce qu'on a pu dire sur l'histoire du film, et notamment sur cette situation, enfin, sur ce sens vis-à-vis du passage à une économie de marché globalisée, enfin, ou en gros, où il n'y a plus d'ennemis, comme tu disais, Louis, en fait... C'est là que moi je trouve le truc intéressant, c'est que James Gray vient rejoindre un tas d'autres films sur ce sujet-là, qui est de faire un film de gangster déceptif. C'était le cas avec de façon un peu différente, mais c'était le cas avec The Mastermind de Kelly Reichardt l'année dernière. mais c'est aussi le cas dans tout le cinéma de Michael Mann, dans une partie du cinéma de Martin Scorsese. Et en gros, ça rejoint toute une série de figures de personnages, de héros, de gangsters, qui en fait sont persuadés d'être en avance, de devancer leurs ennemis. Et c'est tout le temps ce que répète Adam Driver dans le film, c'est-à-dire... Et justement, c'est là que je suis pas d'accord quand il disait qu'il dit tout le temps la vérité. En fait, il passe son temps à mentir à son frère en lui disant « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer », en fait, en lui cachant qu'il a pas du tout la maîtrise de la situation. Et en fait, c'est là pour moi aussi le côté tragique du film, c'est que le personnage d'Adam Driver est tout le temps dépassé par une situation, enfin par la situation qui l'entoure et par un truc qui est complètement abstrait. C'est pour ça qu'en fait, le côté très cliché et pas du tout développé de cette mafia russe, il est à la fois un peu lourd, comme je le disais, mais en même temps, pour moi, il est pas dénué de sens, vu qu'en fait, il vient matérialiser un peu ce côté abstrait. Du capitalisme de marché, de réseau, de flux. Lisez Torres sur Michael Mann, on en a déjà parlé. Mais c'est vraiment les mêmes principes en fait. C'est des personnages qui sont dépassés par un réseau qui devient abstrait et dont en fait ils ne reconnaissent plus les signes, les formes. Et c'est littéralement ce qui arrive à Adam Driver qui, à la toute fin du film, quand il s'enferme dans ce champ de maïs, il pense en fait qu'il est dans un environnement qu'il maîtrise, qu'il est dans des signes qui sont à son avantage. Et en fait, c'est tout le contraire.
Je suis pas d'accord du tout pour le coup parce que je pense qu'il sait très bien qu'il... Enfin, c'est-à-dire il fait montre d'une assurance en les invitant entre guillemets à le suivre dans cette sortie de route et en sachant très bien qu'il est suivi par la mafia et qu'il va devoir il va y avoir une fusillade à un moment, fusillade qui d'ailleurs est un peu déceptive là à son tour. Mais là où je te rejoins pas, c'est que je pense que son but est juste de les éliminer le plus possible et que lui il a tout à fait conscience qu'il ne s'en sortira pas parce qu'on le voit pleurer dans la voiture au moment de partir. Ok, parce qu'il vient de quitter sa famille et qu'il ne les reverra sans doute jamais, mais aussi parce qu'il sait qu'il est condamné. Et la condamnation, elle a été énoncée par le chef de la mafia et elle a été énoncée en fait intrinsèquement par le film lui-même.
Alors du coup, on va peut-être se rejoindre si je modifie un tout petit peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il n'est pas persuadé de maîtriser cet espace, mais effectivement, il est sûr qu'il va mourir, que ça va en finir là. Mais il y a cette espèce du coup de dernier mouvement, de dernier cours, de baroud d'honneur entre guillemets du gangster, de dire bah, « je vais quand même pousser le truc jusqu'au bout ». En faisant croire que je suis persuadé que je vais m'en sortir, alors qu'au fond, il sait qu'il est éliminé. Et pour évoquer Mann précisément, ça évoque en fait la toute dernière scène de Hit, et plus précisément le personnage de De Niro. Mais du coup, voilà, je trouve qu'en fait, la tragédie, elle est très localisée là. Et même pareil, tu vois, sur le côté, la famille qui ne fonctionne pas ensemble, bah, en fait, je trouve que c'est un autre endroit où la tragédie se localise. C'est-à-dire que non seulement les trois sont dépassés par la situation qui les entoure plus largement, mais dès le début du film, en fait, ils n'arrivent pas à communiquer. C'est-à-dire que dès le début du film, la première intervention de Gary, c'est quoi ? C'est un personnage qui revient... pas très à l'aise, un peu par surprise, qui s'impose, dont en fait on comprend qu'il est jamais là et qu'il est presque oublié. Et entre le couple Irvine et Esther, il y a déjà un malaise parce qu'en fait, dès que Gary revient, bah en fait, Gary et Irvine s'isolent dans la cave, un peu à l'écart d'Esther, même si derrière, enfin, ils se partagent des informations et tout. Enfin, ça montre que pour moi, il y a déjà une coupure et qu'en fait, déjà à cet endroit, il y a quelque chose qui se joue. Et pour terminer là-dessus, le tragique, je trouve qu'il se joue toujours aussi dans la lumière, parce que dans cette photo, il y a un truc très crépusculaire, notamment dans cette séquence nocturne dont on parlait, qui est très jaune en fait, et ça va avec ce côté monde finissant et tout est déjà foutu, à la fois anachronique et complètement contemporain, qui est porté par le film.
Ben merci beaucoup à tous les deux. C'est tout pour Paper Tiger. On va avancer donc dans notre exploration des relations familiales. Peu avant la séance de Paper Tiger, par un de ces miracles en fait, dont on ne savait pas qu'ils étaient des miracles avant d'être inscrits à la billetterie de ce festival, mais qui sont devenus notre quotidien. On a tous les trois pu prendre une place pour la séance de minuit et demi pour être exact, du samedi 16 mai 2026, soit l'un des deux films de Quentin Dupieux présents sur la croisette cette année, et en l'occurrence il s'agit de Full Fill en deux mots, le deuxième étant écrit P-H-I-L. Réunissant, enfin façon de parler, Woody Harrelson, Kristen Stewart, Charlotte Le Bon et Emma McKay, le film marque un retour de Quentin Dupieux à un cinéma anglophone, américain même. Seulement, c'est ici dans un simulacre d'indépendance, en tout cas d'un cinéma indépendant bien différent de celui par lequel il a réalisé Rubber, par exemple, il y a ça paquet d'années maintenant. Le film, en effet, est produit hein, par Studio Canal et la mafia de Shifumi Productions, avec le nom de Hugo Célignac, sa fille chante au générique. Un homme coupable, on le rappelle, de la production ou de la diffusion de L'Amour Ouf, Chien 51 ou encore I Love Pérou. Avant de vous laisser la parole sur ce film, j'en donne le pitch. Donc Philippe, c'est Woody Harrelson. Si, mais, effectivement, le pitch, la brioche, ça a tout à fait du sens dans le cadre de ce film. Philippe, donc, qui est incarné par Woody Harrelson, est un Américain très aisé, ayant réservé une suite dans un grand hôtel parisien pour sa fille Madeleine et lui, afin qu'ils puissent se reconnect. Hein, c'est le mot qu'il répète beaucoup dans le premier quart d'heure du film. Mais les tensions franches qu'il y a entre eux font de plus en plus jour dans des échanges où le ton monte sur notamment des toilettes bouchées ou la répartition de l'espace dans cette suite. Madeleine, en effet, est assez têtue et veut surtout regarder son film de série B sur son lecteur de DVD portable. Et donc des séquences de ce film, tournées par Dupieux, s'intercalent dans l'histoire principale, qui ne suit globalement aucune trame réelle, sinon Madeleine qui passe son temps à manger, pendant que Philippe, lui, passe son temps à grossir de plus en plus, et que tous les deux sont surveillés par une membre du personnel de l'hôtel, incarnée par Charlotte Lebon. Est-ce que Claire, ce full feel qu'on a pris plus pour le kiff qu'autre chose et qui nous aura permis de monter les marches nuitamment et par surprise, t'as convaincu?
Eh bien non. non. Enfin, en fait, l'ambiance était super. C'était fantastique de monter les marches, surtout tous les trois en plus, un peu par surprise. D'arriver là dans le grand tas de lumière, c'était super. L'ambiance était parfaite au début. On rigole au début du film. Et après, bah, c'est long. C'est très très long. Ça n'en finit plus. On s'ennuie. On devine tout ce qui se passe très vite. Et puis, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, juste... Enfin, déjà, il n'y avait plus d'ambiance à la fin, et puis enfin, par pitié qu'en fait, qu'il fasse des cours et qu'il arrête de faire des longs quand il n'a pas d'idée, quoi. Donc voilà. Enfin, en fait, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire puisque le film n'a pas grand chose à dire non plus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et en fait, je vais vous laisser la parole parce que ça va s'arrêter là en fait.
Moi je vais être d'accord de A à Z avec ce qu'a dit Claire à l'instant. Disons qu'en fait le film, étonnamment, parce que moi j'ai un peu lâché l'affaire, enfin le dernier Quentin Dupieux que j'ai vu c'est Yannick, et oui ça date, il a probablement fait 15 films entre temps. En fait moi j'étais assez étonné parce que les 15 premières minutes du film, j'ai bien rigolé, sincèrement j'ai bien rigolé. Même le tout début du film qui du coup, enfin cette espèce de faux film... De série Z là, des années 50 avec Emma Mackey, en fait je me suis dit en vrai c'est un peu drôle, c'est déjà un gag qui est très en longueur, on va pas se mentir, mais c'est un peu drôle et surtout je me suis dit en fait c'est dans l'ambiance d'une séance de minuit, effectivement c'est un peu Midnight Movies et après pareil le début de la relève, fin de l'histoire Kristen Stewart, Woody Harrelson, c'est plutôt drôle, il y a des gags qui s'enchaînent et au bout de 15 minutes, le film n'a plus rien à raconter. C'est-à-dire qu'en gros, full feel, c'est imaginez que vous trouvez une blague à faire à vos potes et sauf qu'en fait, le problème c'est que au lieu de juste faire votre blague, vous devez faire un spectacle de 45 minutes de stand-up et du coup, juste vous meublez sur tout le reste. Et full feel, c'est ça. C'est des discussions qui n'ont aucun intérêt, des actrices qui sont un peu en roue libre. En vrai, ils sont sympas 15 minutes aussi, hein, mais on en a vite marre. Et puis même au-delà de ça, en fait, on a l'impression que Dupieux a juste plus aucune idée, que le film va juste chercher en gros son 1h20 pour être long métrage. Et ouais, c'est excessivement long, alors que c'est un des films les plus courts de la sélection, et ça, c'est assez scandaleux, quoi.
C'est vrai que dans une sélection où la majorité des films font au-delà de 2h, voire au-delà de 2h20, un film d'une heure 8, a priori, on aurait pu apprécier ça. 1h18, pardon, merci. Oui, les 10 minutes importantes, mais c'est peut-être celle pendant laquelle je me suis endormi, car effectivement, je me suis tout à fait endormi, ou en tout cas, j'ai lutté contre le sommeil, je sais pas exactement, sachant que de toute façon, j'ai rien manqué, puisque en fait, il y avait rien à manquer, et que c'est une situation qui s'étire, en fait, et qui est la même à 10 minutes de film, à 30 minutes de film, à 57 minutes de film. Donc, Et c'est en fait c'est assez dommage et je crois que c'est un film au début j'en suis sorti en me disant bon bah on s'en fout et c'était surtout c'était chouette de faire l'expérience et puis plus j'y pense plus en fait ce film m'énerve assez prodigieusement sur juste les conditions de sa production, c'est-à-dire que moi j'aurais pu trouver ça effectivement intéressant ou bien de voir un film de se permettre d'être vraiment un mauvais film de série Z d'un pastiche façon Red is Dead dans la Cité de la Peur en fait et d'utiliser ton aura de Quentin Dupieux pour sélectionner un truc pareil à Cannes et permettre une projection de pastiche de série Z dans le Grand Théâtre Lumière en minuit, ok. Là, le problème, c'est qu'il l'intercale avec, du coup, cette histoire dont on n'a rien à faire entre un père et sa fille, qui, pour le coup, n'a rien de tragique, hein, rien du tout, qui se répète et qui s'alourdit, et qui, en plus, n'a plus aucun intérêt, alors même qu'il aurait pu en avoir un. Moi, je trouve que l'idée de prendre des acteurs hyper bankable hollywoodiens et de leur donner, à ce contexte de quasi rabelaisien, de gens qui vont manger, qui vont grossir, et puis qui vont parler de caca dans des toilettes bouchées, et qui vont, le ventre qui explose à la fin, oui, bah, désolé pour le spoil, avec de l'intestin partout, etc. Vraiment, enfin, c'est pantagruélien, c'est très français, et je pense qu'il aurait pu avoir, si, quitte à faire un film là-dessus, ou ça aurait pu, et quitte à avoir ce casting, il aurait pu être intéressant d'essayer de travailler un peu plus le contraste. Là, le problème, c'est que comme tu as dit Aubry, comme tu as dit Claire, eh ben, il s'en tient à son idée, il se demande à ses acteurs Eris de faire un seul truc, d'avoir en gros une réplique qu'il a demandé, qu'il a demandé à une IA en gros de lui tourner, de lui reformuler de 10 000 façons pour tenir sur 1h18. Et voilà, et ce qui est très énervant en fait là-dedans aussi, c'est... c'est ce que je disais un peu sur le mode de la blague dans l'introduction, c'est que c'est produit largement, pour le coup, le film n'a eu aucun souci à trouver des financements parce que pour le coup, c'est vraiment du copinage ils sont tous potes avec la société de production, ils sont tous potes avec Studio Canal, etc., etc. Exactement, et ils se payent le luxe d'une montée des marches, par exemple pour Emma McKay, contre qui j'ai évidemment rien, mais qui fait un caméo de 3 secondes au début du film. En gros, elle est la victime de l'homme poisson dans le film des années 50, là, sur une vanne déjà qui s'éternise. Et en fait, dans le contexte du Festival de Cannes, c'est très chiant. Voilà, je pense qu'il y a des films qui auraient plus mérité d'avoir le créneau un peu secret d'une séance de minuit, en plus, pour permettre à des équipes de films plus restreints d'avoir le plaisir de monter les marches, d'avoir le plaisir de ce moment un peu émouvant et important dans une séance dans une réalisateur, plutôt que Dupieux qui l'a fait 10 000 fois et qui va le refaire dans le cadre de la quinzaine pour son film d'animation. Là.
Le problème, c'est aussi juste que, il y a un moment où il faut arrêter de faire passer Dupieux pour ce qu'il est. C'est un mec snob qui fait des films à tendance de plus en plus réactionnaire aussi sur certains points.
Oui, parce qu'en fait, il y a des séquences de violence. Enfin, il y a une manifestation qui se passe à Paris pendant que ces petits gens sont dans leur hôtel. Et il y a des violences policières qui sont montrées juste en marge de l'hôtel pendant que Woody Harrelson grille une clope en bas.
Oui, on n'a qu'un seul micro, c'est pour ça que c'est un peu cafouilleux, mais... violence policière, mais il y a aussi toute une question un peu plus sur violence faite aux femmes quand même. Là, vraiment, parce que donc il y a cette dame de l'hôtel qui va rester dans la chambre pour vérifier que le père ne violente pas sa fille, dans les grandes lignes. On peut en rigoler évidemment, mais là, ça suffit quoi. Enfin, ça dure vraiment 1h30 cette blague-là en boucle qui ne s'arrête plus. La flemme. Vraiment la flemme, on souffle, tout le monde a soufflé d'ailleurs, et puis ce titre est nul, je suis désolée, enfin c'est vraiment le pompon mais c'est nul, voilà, juste rendez les sous en fait.
Mais voilà, et même quand je disais qu'il était snob, c'est-à-dire qu'on essaye de rattacher Quentin Dupieux à ce qu'il a peut-être pu être par le passé, c'est-à-dire quelqu'un effectivement qui trouve ses goûts, qui a ses racines dans un cinéma populaire de genre bis, série Z, on l'a dit. Le problème c'est que c'est nulle part dans ce film-là, ce qui faisait la force de Quentin Dupieux, je trouve, moi, c'était son absurde à lui, c'est-à-dire sa faculté à enchaîner dans un rythme qui lui est propre des gags absurdes, des situations absurdes, chose dont il s'est assez, je trouve, nettement éloigné, en tout cas qu'il a assez nettement perdu. Et il se retrouve à faire effectivement des trucs assez snob où il peut se payer le luxe de ne rien raconter parce que vous comprenez, c'est absurde, alors qu'en fait, non, c'est juste chiant. Et en fait, il y a juste un côté. un peu fétichiste et condescendant à propos des références qu'il convoque, que ce soit du coup le gore, la série Z ou quoi, parce que ça se voudrait comme un truc du coup un peu populaire qui ferait rire un peu tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que c'était comme ça qu'était pensée cette séance de minuit. Bah, résultat, vous avez qu'à regarder les espèces de micro-trottoirs qui traînent sur les réseaux, tout le monde est sorti en soufflant, moi le premier. Et ouais, en fait, du coup... ce que peut-être lui, mais je sais même pas, en fait, je me demande s'il en est pas juste conscient à force, mais ce que lui peut-être imagine, ou en tout cas ce qu'on voudrait faire passer pour un cinéma un peu populaire, au Racine Bis et tout, bah en fait c'est juste quelqu'un qui vous prend de haut en vous prenant pour des cons, quoi, donc bon.
C'est complètement le degré zéro de Dupieux. En fait, moi, j'y réfléchis et je disais ça à une amie qui me demandait mon avis sur le film en sortant, c'est-à-dire que si j'avais voulu parodier Dupieux, j'aurais fait ce film. Parce que on est vraiment, enfin, c'est-à-dire que quand on est des détracteurs de Quentin Dupieux sur les films, y compris les bons, enfin ceux que je trouve bons dans les 4 dernières années, bah on dit ah bah il y a un concept et puis il y a des trucs méta cinématographiques. Bon bah là il y a un concept et il y a un film dans le film qui prend même pas la peine de s'intégrer plus que ça et qui, à part peut-être le motif de la digestion, n'est pas plus que ça commenté. Donc vraiment full feel, gros mauvais film, très très mauvais film, rien à en sauver, rien à en garder. On va voir ce qu'on peut dire de Ship in the Box à présent. Et je voudrais à présent, chers auditeurs et chères auditrices, vous parler d'un film et vous en parler seul, puisqu'il s'agit de Ship in the Box, le nouveau film du réalisateur japonais Kore-eda, que Aubry et Claire n'ont pas pu voir et que je suis donc seul à avoir vu à Cannes, un film en compétition qui traite aussi des thématiques familiales qu'on a abordées dans Full Feel et dans Paper Tiger. Il se trouve d'ailleurs que j'ai vu ces trois films le même jour, donc il y a même une cohérence chronologique, du moins personnelle. Et pour tout vous dire, et pour commencer, à un moment où, pris par le temps, par le travail et par les rendus, plutôt dans le semestre, j'envisageais sérieusement de ne pas faire partie de l'équipe du comptoir du festival, bah, je disais, plus ou moins ironiquement, que je conditionnais ma venue à la présence ou non de Kore-eda à Cannes en 2026. Ce réalisateur, qui compte parmi mes auteurs et autrices préférés du cinéma contemporain, avait effectivement annoncé tourner une adaptation du manga à succès Look Back, déjà objet d'une version animée à succès sortie l'année dernière. Et ce film doit d'ailleurs sortir en 2026, la version live action de Kore-eda. À ma surprise, cependant, Thierry Frémaux a annoncé la sélection en compétition officielle non pas de Look Back, mais de Ship in the Box, donc Mouton dans la boîte en français, un film d'anticipation où des parents adoptent un enfant robotique, imitation de leur propre fils, Kakeru, tragiquement mort à l'âge de 7 ans, 2 ans plus tôt. Et bah, j'ai été un peu d'emblée déçu à cette annonce. Voilà, ce que je cherche dans le cinéma de Kore-eda, et ce que j'aime particulièrement, c'est la force de son réalisme. C'est le traitement honnête et empathique de familles complexes qu'on se retrouve à aimer malgré tout à la fin, malgré tous leurs défauts, et parfois ils sont caractérisés. C'est ce que j'aime aussi, c'est son habileté à traiter du contemporain, ou alors d'un proche passé, comme il le fait dans sa série Asura sur Netflix. Mais là, on se retrouve dans un futur pas si éloigné, comme c'est écrit sur la première image. Et ce basculement dans la science-fiction bouscule en fait forcément le temps habituel du cinéma de Kore-eda, qui aime plutôt nous habituer à suivre la vie quotidienne d'une famille ou d'un groupe, mais souvent une famille, pendant 30-40 minutes, pour ensuite la dérégler de manière plus ou moins soudaine et mettre à l'épreuve les liens des personnages entre eux. La mise en place d'un univers de science-fiction, de son côté, réclame a priori une présentation rapide et succincte des règles de ce monde alternatif en vue de sa compréhension par le ou la spectateur IS, et ensuite pour pouvoir déployer une histoire dans cet univers de manière logique et cohérente. Or, il m'a semblé que c'était que moyennement réussi ici. En fait, de manière assez symptomatique de cet échec, les premières séquences font se rencontrer sans beaucoup de succès la pesanteur d'un deuil et donc le temps long des films de Kore-eda et les indices du futur proche où nous nous trouvons, comme des drones ou des objets projetant des hologrammes qui sont d'ailleurs pas très bien faits. D'une part, donc, la douleur de ce couple ayant perdu leur enfant dans des circonstances encore non élucidées et dépeinte avec le talent caractéristique du metteur en scène, qui pose et présente ces deux personnages moins dans leur plan en commun que dans les séquences où ils sont seuls, le plus souvent au travail et entourés de collègues ou de clients qui ne soupçonnent pas leur blessure intime. Mais le problème, c'est que, indépendamment d'ailleurs de la science-fiction elle-même, c'est qu'on on la soupçonne pas non plus, en fait, cette douleur. On n'en a pas l'idée, on en a l'intuition ou la connaissance, parce que la mort de Kakeru, le fils de Kensuke Otone, donc, nous est annoncée au bout d'un quart d'heure de film. Mais jusqu'alors, je parlais d'un deuil dépeint avec le talent du metteur en scène. Je me reprends, c'est pas exactement ça, parce que jusqu'alors, difficile de soupçonner la béance que représente un tel drame dans la vie des personnages. À l'instar de cette maison beaucoup trop propre et de cette photo froide, terne et sans âme, pourtant signée du même chef opérateur qu'une affaire de famille, le jeu des deux protagonistes manque d'aspérité et, assez étonnamment pour l'immense directeur d'acteurs qu'est Kore-eda, son jeu paraît presque aseptisé, formaté pour transmettre des émotions elles-mêmes formatées vers le public qui reste, en tout cas pour moi, insensible. Rien de ce qu'il y avait de foutraque ou simplement d'humain dans les familles de tel père tel fils, après la tempête, l'innocence ou Asura ne se retrouve ici. L'espace domestique est d'une géométrie parfaite et d'une ergonomie à toute épreuve, mais rien n'y fait jamais foyer. Tous les acteurs, en fait, jouent des personnages de Kore-eda, mais aucun ne propose de rôle franchement original. Comme si, à l'instar de cet androïde imitant parfaitement mais sans l'âme un enfant qu'on veut retrouver, le film imitait parfaitement mais sans l'âme le style du réalisateur. Et l'autre problème, outre celui-ci, c'est l'irruption d'éléments en apparence futuristes, mais de la plus stéréotypée des manières, dans le prologue. De l'hybridation ratée entre cette marque Kore-eda et l'anticipation robotique naît donc un film au début un peu gênant, fondé sur une stricte alternance de scènes balançant entre ces deux pôles sans jamais trouver un juste milieu, ni de lien ou de cohérence. Et puis, ça c'est mon problème, mais j'avoue que les histoires de robots ne m'intéressent en général qu'à moitié et ne m'émeuvent pas du tout. Et puis le film, soudainement, a fini par m'intéresser, me convaincre et m'enthousiasmer suffisamment pour que je souhaite le défendre dans cette chronique, alors qu'il a été assez descendu par la presse et que les gens se sont barrés en masse au moment de la standing ovation, d'ailleurs très courte, chose que j'ai pas trop vue ailleurs, que ce soit dans les véritables séances ou bien dans les replays diffusés régulièrement sur les télés du Palais des Festivals. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ce virage caractéristique des films de Kore-eda, ce dérèglement que j'évoquais tout à l'heure. Il ne s'agissait pas, en fait, de l'arrivée de l'enfant robot, qui, finalement, et de manière très intelligente, permet juste l'habituelle peinture du quotidien familial et d'une vie qui reprend comme si elle n'avait été qu'interrompue, presque mise en pause seulement par le décès de Kakeru. Mais le film fait finalement le choix, en y allant plus ou moins à reculons, de s'engouffrer pleinement dans le cinéma de genre et de déployer enfin un espace franchement neuf, à la croisée des mondes possibles de la science-fiction et du monde de l'enfance, comme on l'appelle souvent. Kakeru rejoint en effet, discrètement et à l'insu de ses parents, une communauté d'autres androïdes en révolte, mais en révolte tranquille, contre un monde adulte qui les considère au fond comme de simples objets de consommation. Et là, la distinction entre humains et robots recoupe soudainement celle entre adultes et enfants, et met assez brillamment, et au fond assez violemment en valeur, le système de domination des grands sur les petits. L'allégorie mécanique d'une main électronique dont la peau a été enlevée ou d'un œil dysfonctionnel figure avec pudeur et même une certaine justesse les coups, les manques ou les abandons enfantins. On s'attendrait alors, et le film esquisse malicieusement cette première piste en lorgnant du côté d'un village dédané version Carpenter, voire en nous inquiétant franchement, à ce que le film bascule du côté de l'horreur. Mais on prend peu à peu conscience que cet univers décalé n'intéresse pas le film pour sa nature horrifique. On comprend même, au contraire, que c'est là, dans ces enfants électroniques donc, que se loge la vie qui manque cruellement aux premières séquences. Dans Ship in the Box, le foyer n'est pas un donné qui se détériore, puis se reconstitue différemment à la fin. La maison froide des parents n'est pas le lieu, en fait, qui intéresse Kore-eda. Il nous emmène à l'inverse, notamment dans des tiers-lieux, et notamment dans une école en déshérence, en marge du monde adulte, où les enfants robots se retrouvent, sociabilise de façon naturelle et spontanée dans un cadre qui d'ailleurs passe sans rappeler celui des adolescents de Typhoon Club de Shinji Somai, un film capital des années 90 pour Koreeda, et où les enfants donc dans cette école conçoivent ensemble leur propre monde à venir sur la base de plans, de maquettes, conçoivent leur propre utopie pleinement indépendante des déchets humains et adultes sur lesquels ils doivent encore compter pour un temps, et une utopie à laquelle la dernière séquence donne puissamment corps. Cette dernière séquence, je ne vais pas la décrire, je ne vais pas la spoiler, même si de toute façon, ce n'est pas en soi l'enjeu du film. Mais il faut dire que Michel Foucault aurait sans doute pété son crâne lisse et chauve devant la nature hétérotopique de cette forêt où tout se conclut, où la famille choisie de Kakeru peut pleinement trouver refuge. Comme le fait Christian Mungiu dans Fjord, Koreeda professe une fois encore sa croyance et son espérance dans une enfance détachée des adultes, tenue en échec et pris dans des liens contraignants, finalement plus artificiels que l'IA qui les anime. Mais, là où la comparaison avec Mungiu ne se tient plus, c'est que le réalisateur japonais ne veut pas croire que l'oppression des adultes soit trop forte et ainsi étouffer une alternative enfantine. Koreeda, il envisage plutôt que les adultes volontaires accepteront de laisser faire et de se laisser faire par leurs enfants et de se laisser changer par eux surtout. L'indépendance enfantine de Ship in the Box marque alors un tournant passionnant dans l'œuvre de Koreeda qui s'amorçait déjà dans L'Innocence, son dernier film. Le scénario et les enfants avec lui s'affranchissent des personnages de parents, dans un renversement enfin heureux et choisi de la condition tragique des petits de Nobody Knows, abandonnés à eux-mêmes par leur mère. La famille ne se recompose plus du tout sur un mode vertical, mais sur celui horizontal de la fraternité. Bon, on avait déjà cette idée d'horizontalité dans les liens entre parents et enfants avant, mais ici ça se trouve carrément exacerbé puisqu'on est sur de la fraternité et le père et la mère sont exclus de la résolution finale et on se souvient déjà que c'était un peu dans le dernier plan de L'Innocence. Dans un monde en crise, qui est le nôtre, un peu comme le faisait son compatriote Hiroshi Shimizu 80 ans en arrière pendant la Seconde Guerre mondiale, et après, Koreeda ne peut se résoudre à ne proposer que des relations familiales aporétiques ou tragiques, comme le font James Gray ou Dupieux dont on vient de parler. Comme Hiroshi Shimizu, il propose une alternative communautaire, enfantine, dont on peut espérer qu'elle fera mieux que nous. Tout dans Sheep in the Box, comme dans Les Enfants dans le Vent, Les Saisons des Enfants, Les Enfants de la Ruche, qui sont des films de Shimizu, tout dans Sheep in the Box fait signe vers le conte. Hein, que ce soit si on regarde la structure, en fait, on a une structure de conte avec des parents privés d'enfants au début, puis le miracle de l'arrivée de cet enfant ensuite, et le dévoiement du vœu de l'arrivée de cet enfant après. Mais la puissance normative de ce type de récit, les contes, va se trouver renversée ici. Comme dans Le Petit Prince, auquel le titre de ce film-ci fait explicitement référence, c'est l'aviateur qui dessine un mouton dans une boîte au petit garçon, comme dans Le Petit Prince, c'est un enfant qui nous invite à décentrer notre regard. La fin du film de Koreeda n'implique pas le retour à l'ordre qu'il y a bien souvent dans le conte. En Pinocchio inversé, Kakeru ne devient pas humain, parce qu'il n'y a rien de bien intéressant à devenir humain. Il embrasse sa nature autre et nous donnera peut-être de quoi espérer. Et ainsi, ce qu'on peut peut-être y lire, c'est une métaphore d'une enfance qui n'est pas appelée à imiter rigoureusement un âge adulte en échec. En somme, le film de Koreeda, je le disais au milieu de cette chronique, mérite d'être défendu et ne devrait certainement pas être le plus mal noté des films en compétition, ou en tout cas un des plus mal notés, comme c'est le cas dans le tableau des critiques de la revue Screen. Est-ce que je suis particulièrement indulgent parce que j'ai assisté à sa première en présence de l'équipe, je le disais, dans le Grand Théâtre Lumière, et que, ayant croisé Koreeda par hasard plus tard dans la semaine, il a très gentiment accepté de me signer mon livre. Enfin, son livre que je possédais. C'est possible. Le compteur du festival n'a d'ailleurs jamais affirmé qu'on était parfaitement objectif. Du reste, mais à nouveau, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au début, hein, mais je reconnais volontiers au film ses longueurs, ses aberrations scénaristiques, ses maladresses et globalement sa faiblesse de construction. Mais il a au moins eu la bonne et appréciable idée de proposer quelque chose de singulier. Enfin, à la fois dans une compétition si franchement identique par endroits, et même dans l'œuvre de son réalisateur, et de ce fait, je me devais d'en parler longuement, et avec ma plus vive sympathie, dans cette émission consacrée aux familles, et où l'on termine par le choix de famille recomposée, plutôt que les échecs tragiques chez James Gray, ou burlesques chez Dupieux. Sur ces belles paroles, c'est la fin de ce quatrième épisode du Comptoir du Festival, qui était le premier à être consacré au film du festival à proprement parler. Merci beaucoup à Smila, Élise et Corentin qui nous ont permis pour Transistor de couvrir et d'assister à ce festival. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du comptoir du Festival de Cannes. On va y parler de Gentle Monster de Marie Kreutzer et de Mémoire de fille de Judith Godrèche. Restez donc branchés Transistor car ce sera bien évidemment disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et partagez-nous. Vive le cinéma et vive Transistor !